Vous allez écouter Paroles de Femmes, le rendez-vous pratique pour aider les femmes à mieux vivre leur quotidien. Cette émission est réalisée en partenariat avec la communauté d'agglomération Ventoux, Cantavenessin et la ville de Carpentras.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'RTVFM dans cette émission Parole de Femmes. Aujourd'hui, à mes côtés pour présenter donc cette émission, nous avons Josie. Bonjour Josie.
Bonjour Florian.
Josie, donc tu nous présenteras tes invités dans quelques instants. Nous avons aussi René. Bonjour René.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et oui, toi aussi, donc tu nous présenteras ton association.
Oui.
Et Mounia aussi qui sera intervenante donc, pour cette émission, tout au long de cette émission. Bonjour Mounia.
Bonjour Florian, bonjour à tout le monde.
Alors, donc toutes les trois, donc on va peut-être commencer par Josie qui va peut-être pouvoir nous présenter l'association qui est reçue aujourd'hui. Donc elles sont deux associations pour cette émission, donc d'une durée d'une heure.
Donc moi j'ai en invité Manon Barbin. Et Aurélie, qui vient en témoignage. Hein. Et Manon, c'est l'association Manoleta, qui parle de l'endométriose dans le Vaucluse. Bon, puisque nous sommes dans le Vaucluse, elle nous en parlera donc, tout à l'heure un peu plus longuement.
Et nous avons aussi, je crois, René. Donc René, toi, c'est l'association Réseau, c'est bien ça?
Oui, c'est l'association Réseau à Carpentras. Et je suis en compagnie de Madame Isabelle Lemaire, qui est responsable du service de violence conjugale, un des services de Réseau. Voilà.
Très bien. Et donc, on va peut-être laisser la parole à Josie, peut-être pour commencer ses premières questions, en tout cas sur l'association. Donc, Manoleta.
Alors, Manon, merci d'être venue d'ailleurs.
Merci hein, à vous.
Voilà, d'Avignon, vous venez. Oui. Donc, cette association, elle a été créée il y a combien de temps?
Au mois de mars de cette année.
Au mois de mars de cette année. Et pourquoi maintenant? En rapport avec un événement quelconque?
Le mien, ma maladie. Et ensuite, il a fallu se faire opérer, avoir les traitements. Et une fois que j'étais relevée à moitié, j'ai décidé... de manière totalement égoïste, de créer cette association qui est thérapeutique pour moi, rechercher l'énergie des filles, nous rassembler et nous soutenir, et puis nous faire entendre auprès de l'État pour être reconnue. Enfin, ça serait bien.
Oui, il paraît que c'est assez difficile comme parcours.
Oui, très, parce que déjà, les médecins eux-mêmes ne sont pas formés. Il faut savoir qu'en médecine, on étudie la première année ces quatre lignes et c'est sur le sujet de la reproduction et de la douleur très peu. Donc là, déjà, il y a un gros problème. Ensuite, les médecins ne connaissent pas forcément, n'ont pas le réflexe de rechercher cette maladie quand une femme vient avec des douleurs menstruelles. Et puis, c'est autour de ça... Les gens en général ne connaissent pas, les médias en parlent, mais pour l'instant, c'est que l'approche d'infertilité. On parle très peu des douleurs et du handicap qu'on a au quotidien. Et puis, il y a que ce n'est pas remboursé.
En plus, ce n'est pas remboursé.
Non, on paye nos antidouleurs, nos anti-inflammatoires. La pilule, il y a une partie qui est prise en charge par la sécu, l'autre par la mutuelle. Voilà, ça dépend ce qu'on peut se payer comme mutuelle.
Oui.
Tout ce qui est ostéopathe, kiné, c'est pas forcément pris à 100% non plus.
Ça n'est toujours pas reconnu.
Non. Normes, quoi. Il faut tous les 6 mois qu'on fasse un bilan, donc avoir un spécialiste, c'est plus cher qu'un.
Mais toujours à vos frais, bien sûr.
Toujours à nos frais. C'est les examens. Heureusement, en France, on a quand même les examens qui sont pris en charge. Mais il y a des produits qu'on utilise pendant les examens qui sont à nos frais parfois.
Oui, donc, tu voulais demander quelque chose.
Oui, je voulais demander qu'est-ce que c'est exactement l'endométriose pour les auditeurs.
Alors, l'endométriose, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle le cancer non mortel. En fait, ce sont les cellules de l'endomètre, donc ce qui recouvre la paroi de l'utérus, qui vont aller se loger hors de l'utérus et partout dans le corps. Voilà, il n'y a pas de limite. Et ces lésions qui vont se fixer vont suivre le rythme menstruel. Donc, tous les mois vont saigner, ce qui est l'équivalent d'hémorragie interne, en fait.
Mais ça se voit, ça passe en même temps que les règles ou...
Oui. Alors, ça saigne dans le corps, oui.
Dans le corps, d'accord, voilà, ça ne se voit pas, donc, en fait, oui.
Voilà. C'est une maladie qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais que je vous jure qu'on ressent très bien de l'intérieur.
Je vous crois sur parole, pardon.
Et ensuite, cette lésion, elle va créer un réseau sanguin pour s'alimenter en sang et devenir un nodule. Donc un nodule, c'est une énorme kyste de sang. C'est du vieux sang, donc on appelle ça des kystes chocolat. Et du coup, c'est très toxique pour le corps. Et ensuite, ça devient des adhérences. Donc les adhérences, ça va être des toiles d'araignées de superglue qui vont coller les organes entre eux et les rapprocher entre eux. Donc on peut avoir l'utérus qui a fusionné avec le rectum. Je vous laisse imaginer les contraintes que ça pose au quotidien. Mmh. On peut avoir l'intestin qui se colle à la vessie, qui se colle avec lui-même.
C'est quand même pas croyable qu'on ait mis si longtemps pour comprendre ce qui se passait.
On n'a pas mis longtemps. On connaît, on a mis ce nom. C'est un médecin, je ne saurais plus vous dire le nom. C'est un médecin qui a donné le nom de l'endométriose en 1860.
Ah quand même,
ah,
oui.
Ah oui.
Et ben donc oui, effectivement, il a fallu très longtemps donc pour qu'enfin. Et
voilà, en fait, on a demandé d'arrêter ses recherches. C'était pas intéressant. Et puis voilà, ça ne concernait que la femme à ce moment-là.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Donc on l'a laissé de côté et puis ben voilà, ça a laissé le temps à la maladie de se développer.
Et qui est-ce que vous savez qui a repris un peu ces recherches et dire mais si, mais on en avait parlé, il faut recommencer.
Alors il y a le docteur Roman de Paris, je crois que ça a été un des pionniers à en parler. Maintenant, je crois que c'est par la force des choses aussi, parce que les femmes ont mal, commencent à le dire, et puis n'arrivent plus à faire d'enfants. Mmh. Et ça, c'est un problème de société pour les hommes aussi.
Bien sûr.
Il fallait que ça les concerne pour qu'on en parle, il faut dire la vérité. Voilà. Tant qu'ils n'étaient pas concernés, il n'y avait pas de raison. Donc là, on n'a plus le choix que de regarder et de dire, bah, ouais, la fécondité, il y a un problème. Les douleurs empêchent les femmes d'être mères, d'être professionnellement actives. Ça les empêche d'être dans une société où on peut vivre pleinement. Et je pense que ces femmes en ont marre et ont tout simplement commencé à en parler.
Et donc, vous avez donc déjà été opérée.
Oui.
Et vous avez invité une personne à nous témoigner. C'est Aurélie qui va, elle, par contre, se faire opérer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Alors, bonjour.
Bonjour.
Oui, donc je vais me faire opérer, en fait, donc, le 10 décembre parce que j'ai des douleurs, on va dire, chroniques. Donc, c'est tous les jours depuis 8 mois. J'ai des douleurs, en fait, atroces. C'est-à-dire que j'ai dû arrêter de travailler parce que ça faisait 12 ans que je travaillais dans la même entreprise, mais je ne peux ni rester debout. Enfin, n'importe quelle position, c'est juste catastrophique. Donc, j'ai les ligaments utérosacrés d'atteints, j'ai le cul-de-sac de Douglas et entre le rectum et la vessie. Donc, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal d'aller juste aux toilettes. C'est-à-dire que faire pipi est un calvaire. Aller à la selle, c'est juste catastrophique puisque j'ai déjà fait 3 syndromes occlusifs. J'ai des douleurs au niveau lombaire, donc qui entraînent des sciatiques et cruralgies toute la journée. Donc c'est comme si j'avais une infection urinaire en continu, mais une grosse infection, et des sciatiques et cruralgies en continu. Donc tous les jours, c'est anti-inflammatoire, anti-douleur, c'est des pleurs, ça amène à la dépression, hein, parce que c'est vraiment des très grosses douleurs. Donc du coup, j'ai été suivie à Avignon par le docteur Donnet en premier temps. Ça ne m'a pas convenu par rapport à ce qu'il me proposait. Ensuite, je suis actuellement suivie à Marseille. Pas le docteur Pivano, qui, elle, m'a proposé en fait, l'intervention chirurgicale.
Et est-ce que vous avez été au début aiguillée par quelqu'un, par exemple peut-être par l'association de Manon ou pas, qui vous a dit « tu as peut-être une endométriose, il faudrait aller voir telle personne ». Ça s'est passé comment?
Ben, en fait, suite à l'accouchement de mon deuxième enfant, j'ai commencé à avoir de très grosses douleurs. Donc du coup, j'avais des kystes ovariens qui se rompaient tous les mois avec du liquide dans le ventre. Donc j'allais toutes les semaines à l'hôpital d'Avignon. Ensuite, ils m'ont dit que j'avais un épanchement rétro-utérin, donc c'est-à-dire j'avais du liquide derrière l'utérus. Donc ils m'ont dit qu'il faudrait faire un IRM pelvien parce que ce n'est pas normal au bout de 5 mois de douleur.
Oui, quand même. Oui.
Donc de là, on m'a fait un IRM pelvien que j'ai demandé qu'on me fasse puisque au final, mon médecin traitant ne me l'avait jamais prescrit. Et de là, on m'a trouvé une endométriose profonde sur les ligaments utérosacrés.
Parce que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais encore que les femmes qui subissaient cette maladie ne pouvaient pas avoir d'enfants. Par contre, vous aviez déjà eu un enfant et je connais une autre personne qui en a eu plusieurs aussi. Et dernièrement, on lui a dit que c'est peut-être une endométriose. Donc, comment ça peut venir ? Donc, même, quand même, après, ça arrive un peu n'importe quoi, en fait.
Je me permets, pardon. Il faut savoir qu'on n'attrape pas l'endométriose. Oui. On l'a en nous.
On l'a.
Depuis
c'est comme le cancer, ça se
développe. Voilà. Depuis les premières règles, on l'a. Les femmes qui ont de l'endométriose, elles l'ont forcément eu depuis leurs premières règles, voire avant, parce que c'est aussi héréditaire et génétique. Là, dans le cas d'Aurélie, une grossesse, il faut savoir que c'est... Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas tomber enceinte, mais j'explique qu'une grossesse, il faut le savoir, à titre d'information, que c'est un buffet gratuit à volonté pour la maladie. La maladie se nourrit d'œstrogènes. Voilà, la grossesse, c'est la meilleure période de sa vie où on a le taux d'œstrogènes le plus haut. Donc, pendant 9 mois, on n'a pas nos règles. Oui, ça soulage, en effet. Mais on a souvent entendu dire « la grossesse guérit ». C'est faux.
Bah, c'est fou, apparemment.
Déjà, on ne guérit pas de l'endométriose, ni la ménopause, ni la grossesse ne guérit. Ensuite, la grossesse, au contraire, au moment de l'accouchement, après l'accouchement, va libérer beaucoup d'œstrogènes et c'est là où la maladie, elle va amplifier. Donc Aurélie l'avait avant. On a aussi un caractère où on évite de se plaindre, nous, les femmes. Parce que quand on va voir son gynéco en disant « j'ai mal », il dit « oui, c'est normal, vous êtes sensible, bon, il y a une sensibilité ».
Oui, c'est souvent, oui. Voilà. Malheureusement, on a tout eu ce discours.
Donc, ensuite, on ne dit rien, on fait un enfant, puis deux, et là, la maladie, ben, elle est à son, on va dire, elle est au top de sa forme. Donc, elle va commencer à pourrir clairement notre vie. Mais on ne l'a pas d'un coup, la maladie, vous voyez, elle ne survient pas. Et c'est là où il faut faire comprendre ça aux femmes et aux médecins. C'est que dès les premières règles, on peut déjà diagnostiquer et empêcher, comme Aurélie, que ça envahisse, qu'il y ait des conséquences terribles.
En faisant quel examen, justement, pour diagnostiquer ?
C'est un examen pelvien pour commencer. On va sentir chez une femme atteinte d'endométriose que son utérus est plus tendu, en fait. Il y a une tension. C'est une maladie inflammatoire. Donc, on va sentir une tension, une inflammation. Ensuite, il faut une échographie. Voilà, voir s'il y a des nodules, des lésions visibles. Et ensuite, un IRM. Mais encore avec tout ça, ça ne suffit pas. Il n'y a que 50% de fiabilité. Ce qui reste le plus fiable, ça reste la célioscopie. Voilà. Donc, on opère. Et là, on peut vraiment voir...
Finalement, pour venir à bout de ça, il faut, oui. C'est l'opération. Quoi.
Oui.
Il n'y a que ça qui...
Alors, ce n'est pas systématique.
Et est-ce que c'est garanti au moins qu'après, oui, voilà. On est tranquille, quoi, voilà.
Ben non, c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique, alors. C'est une maladie qui va récidiver. Donc, on nous soulage. C'est ce qu'on appelle de la chirurgie de confort. Donc, je n'appellerai pas ça comme ça, mais c'est ce qu'on dit dans le jargon médical. Et ça permet de soulager un temps. Mais un jour ou l'autre, on va récidiver. Voilà. D'accord. C'est pour ça que c'est urgent de faire quelque chose.
Je voulais dire quelque chose. Est-ce qu'après l'opération, une autre opération peut être faite ? Non, il n'y a qu'une
seule. Mais systématiquement, il y a, on va dire à peu près, on n'a même pas les chiffres exacts, j'ai même pas les chiffres exacts à vous donner parce qu'il n'y a pas de recherche. Donc, mais on estime qu'à peu près au bout de 10 ans, c'est 100% de récidive.
Ah oui,
d'accord. Et oui, donc on le sait que dans 10 ans, Aurélie et moi, on va repasser voilà, sur la table.
Ah oui, d'accord.
C'est là où il est urgent de faire des recherches, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à se faire ouvrir le ventre, quoi.
Alors, je crois savoir aussi, mesdames, donc je vais poser peut-être la question à Manon ou Aurélie, vous faites aussi des réunions une fois par mois d'informations sur l'endométriose.
Oui, tout à fait. Alors, réunions d'informations et aussi, surtout, groupes de parole. On a besoin de se retrouver avec des personnes qui nous comprennent, mais attention, on ne fait pas que pleurer, on en rigole aussi beaucoup. Et je pense que cette association, tu me diras Aurélie si c'est bien ça, mais elle est aussi thérapeutique dans le sens où on peut rire de tout ce qui nous arrive et ça fait du bien. Qu'est-ce que t'en penses Aurélie ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai rencontré Manon, ça a été quand même un maintien thérapeutique pour moi, quoi. Parce que c'est vrai que je me sentais vraiment seule face à la maladie.
C'est ce que, pour toute forme de cancer, d'ailleurs, on le dit, hein, il faut, au contraire, il faut se battre, il faut rire, il faut, voilà, quoi, c'est pas toujours facile, mais quand on est entouré, justement, par des personnes qui connaissent très bien le problème, ça doit aider quand même, hein.
Oui, c'est sûr, mais je pense qu'il faut avoir une très grande force psychologique pour rester debout face à la maladie. Parce que quand on se lève le matin avec les douleurs, qu'on s'endort avec les douleurs et que le lendemain, c'est pareil, honnêtement, c'est vraiment très dur, quoi.
J'imagine.
Et surtout pour l'entourage, parce que c'est vrai qu'ils ne comprennent pas souvent les douleurs qu'on peut ressentir.
On peut vous joindre comment ?
Tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Donc Facebook, Endométriose Vaucluse, Snapchat, Twitter, Instagram, tout ça, c'est Endométriose Vaucluse. Voilà, et puis il y a un site internet aussi. Donc c'est manoleta84.wixsite.com, hashtag association. Par téléphone au 06 50 02 47 90. Et surtout, n'hésitez pas, je le dis déjà à toutes les filles, mais vraiment de m'écrire quand ça ne va pas. Voilà, vraiment, le simple fait de dire « non, je ne vais pas bien », déjà, ça soulage quand de l'autre côté, on est entendu. Donc, n'hésitez pas.
Oui, moi, Aurélie, il y a quelque chose qui me vient là tout de suite. Dans la vie familiale de tous les jours, c'est-à-dire dans votre couple, avec vos enfants, avec votre famille, comment se passe la maladie, justement ? Est-ce que vous en parlez dans la famille ? Est-ce que vous arrivez à trouver quand même des... pas des solutions parce que c'est médical, mais est-ce que vous arrivez quand même à mettre la maladie un petit peu sur une voie qui était un petit peu moins chaotique avec la famille, les enfants et votre couple ?
Alors, pas du tout. C'est-à-dire que c'est très dur au quotidien à vivre, notamment pour mon fils, le plus grand qui a 7 ans, de voir sa maman tous les jours pleurer, d'être dans la douleur. C'est-à-dire que je peux être moins disponible, je suis pas du tout disponible pour lui. C'est-à-dire que j'ai mal, quand il veut aller faire un foot, ben, je ne peux pas. Ben, pour ma fille qui a 2 ans, c'est vrai que c'est compliqué aussi à gérer tous les jours. Mon conjoint, lui, est très présent pour moi. Et heureusement qu'il est là, parce que sans lui, ça serait très compliqué. Il m'accompagne à l'hôpital, c'est-à-dire à raison d'une fois par semaine, pratiquement, chez les médecins, chez les docteurs. Bon, après, c'est vrai que ça a été très dur pour mes parents, parce que c'est vrai que de voir leur fille souffrir au quotidien, c'est quand même pas facile. Là, jeudi dernier, j'ai été hospitalisée à la Conception à Marseille pour 2 jours parce que ça n'allait pas du tout. Et c'est vrai que le soir, quand je suis rentrée chez moi et que mes parents m'ont vue comme ça, ce soir-là, ça n'allait pas du tout, quoi. Je pleurais, je criais, je hurlais. Je disais, c'est soit ça s'arrête, soit c'est moi qui l'arrête, quoi, la maladie, parce que je ne peux plus.
Mais merci, mesdames. On va revenir dans quelques instants tous ensemble. Merci Josie, merci René, et puis merci aussi à l'association Manoleta, donc avec Manon et Aurélie. On va se retrouver juste après la musique aussi avec l'association Réseau, représentée aujourd'hui par Isabelle. Mais en attendant, donc, on va continuer en musique. À tout de suite.
Je commence le livre par la fin. J'ai le menton haut pour un rien. Mon œil qui perce est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas. Thank you.
Vous écoutez Parole de Femmes, le rendez-vous pratique pour aider les femmes à mieux vivre leur quotidien.
Et vous êtes toujours sur l'antenne d'RTVFM avec dans l'émission Parole de Femmes. À l'instant, donc, vous avez pu entendre Manon Barbin et Aurélie, donc avec l'association donc Manoleta. Donc Josie vous a posé quelques questions ainsi que René. Et on va maintenant parler de l'association Réseau avec René.
Oui, donc je suis en compagnie d'Isabelle Lemaire qui représente Réseau. Elle est responsable du service violence conjugale sur un des services de Réseau. Donc Isabelle, déjà bonjour.
Bonjour.
Présentez-nous un petit peu Réseau.
Alors déjà avant toute chose, je voulais quand même dire que moi j'ai l'habitude de dire que je rencontre tous les jours des femmes formidables et hyper courageuses, mais franchement Manon et Aurélie m'avaient
Merci.
Beaucoup touchée.
Merci.
Ça c'est important parce que oui, c'est vrai que au sein du service des violences conjugales, on renomme aussi violences faites aux femmes parce qu'on reçoit de plus en plus de femmes victimes de tout type de violence. On accueille donc des victimes. Pour vous donner une idée, sur 2017, on a reçu 380 personnes. Ça vous donne un petit peu une idée de l'ampleur du phénomène sur notre territoire uniquement. Hein. Donc sur ce service, on a un accueil de jour départemental qui est homologué par l'État et qui a été créé en 2012, mais l'association existait déjà auparavant avec un autre système d'accueil pour les victimes. Donc depuis 2012, cet accueil de jour, il est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 16h, avec ou sans rendez-vous. Et ça, c'est très important parce que quand on a des femmes qui sont victimes de violences, qui sont sous contrôle, c'est très compliqué d'assurer un rendez-vous.
Oui, je me doute. Au premier contact, comment ça se passe avec justement ces personnes qui viennent vous voir? Et qu'est-ce que vous leur proposez?
Alors, on va dire qu'on reçoit, par rapport aux victimes, on a des femmes qui sont dans des parcours complètement différents. Même si la problématique, finalement, est la même, les processus en œuvre et les mécanismes sont exactement les mêmes, on va recevoir des femmes qui sont à différents niveaux dans le chemin de la conscientisation, de la prise de décision. Donc nous, la première chose qu'on leur dit, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous attendez de nous? On renverse en fait un petit peu le questionnement pour pouvoir leur montrer qu'elles peuvent prendre des décisions. C'est ce qu'en général on leur dit le contraire à longueur de journée. Ben nous, on va leur rendre leur autonomie à prendre conscience et à prendre des décisions. Donc on a des femmes qui viennent... Alors je dis femmes parce que c'est la majorité,
oui.
Mais il faut savoir qu'on reçoit aussi des hommes victimes. D'accord.
Ah bon,
mais
d'accord.
Comme la majorité pour une fois est féminine et qu'on est dans une émission de parole de femmes, on va parler au féminin. Mais voilà, on reçoit aussi quelques hommes victimes. Donc en fait, ces femmes, elles nous sont orientées déjà de différentes façons, par les forces de l'ordre, par des travailleurs sociaux, par le milieu soignant, par des copines. Elles vont rechercher souvent déjà de comprendre ce qui leur arrive. Est-ce que c'est normal que je vive ça chez moi? Est-ce que... Alors, quand c'est de la violence physique, souvent, elles savent que c'est pas normal. Mais il y a quand même une certaine banalisation, parce qu'au quotidien, parce que ça dure depuis des années, et que finalement, ce qu'elles entendent, c'est que c'est pas si grave. Donc, nous, on va essayer de remettre des mots, et surtout de resituer ce qui est normal et ce qui n'est pas normal.
Les violences conjugales, c'est quoi exactement ?
Très bonne question, parce que c'est souvent très complexe. En fait, la violence conjugale, c'est la violence dans le couple. Quel que soit le type de violence, on la caractérise comme un délit de violence conjugale quand c'est d'un conjoint sur un autre. Et dans les conjoints, on a les maris, on a les pacs, on a les concubins, on a les petits copains.
Eh oui.
Voilà, on a toute forme de conjugalité. On a une conjugalité hétérosexuelle, homosexuelle. On a toute forme de conjugalité et on reçoit toutes sortes de victimes.
Et là, je vois sur la brochure différentes violences, violences sexuelles, violences contre les enfants. Ça, c'est quelque chose qui est... abominable contre
les
enfants.
Alors en fait, c'est une arme, hein, la violence contre les enfants. C'est-à-dire qu'au sein du couple, il y a différents types de violences. Vous en avez cité quelques-unes.
Oui.
Il y a les violences verbales et psychologiques. Ce sont les insultes, l'humiliation, le rabaissement.
Celles-là, elles font très très mal.
Les intimidations, les menaces, elles font très mal et elles laissent peu de traces, en tous les cas visibles.
Oui. Elle laisse des séquelles profondes.
Elle laisse des séquelles profondes parce qu'elle touche l'estime de soi, oui. Elle touche la confiance en soi. Et quelque part, si on ne travaille pas sur ça, eh ben, on a des femmes qui vont rester avec 20 ans, 30 ans de mésestime d'elles-mêmes, où elles pensent qu'elles ne sont capables de rien et que finalement, elles ne sont bonnes qu'à être victimes. Hein, donc ça, c'est un gros travail que nous on fait. Il y a aussi les violences physiques. Il y a les violences aussi dont on parle moins, qui sont d'une forme de contrôle. C'est les violences économiques et financières et administratives. C'est comment on empêche une femme d'aller travailler, d'avoir une autonomie administrative financière. Et pourquoi on le fait ? Ben pour avoir un contrôle complet et l'empêcher de partir. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très fréquent. Les violences sur les enfants dont vous parlez, c'est... Alors, on est dans le cadre conjugal et pour autant, on va aller toucher l'enfant. Pourquoi on va aller toucher l'enfant ? C'est pour faire mal à la mère.
Oui, parce que la mère protège toujours son petit, ça c'est normal.
Hein. Et on sait que c'est ce qui va lui faire le plus de mal. Donc, une fois qu'on a fini par avoir cette femme sous domination, pour s'assurer encore de bien la tenir et de maintenir la peur, hein, parce que c'est ça... Hein, il peut y avoir des violences sur les enfants. Il y a aussi des violences sur les enfants quand les enfants s'interposent. Et ça arrive souvent. Un enfant qui assiste à des scènes de violence régulières, oui. À un moment donné, quand il grandit...
Il dit stop
et voilà, se met au milieu. Et il s'interpose et c'est lui qui prend les coups. Voilà. Alors c'est aussi un des facteurs, c'est pas le seul, mais ça peut être aussi un facteur déclenchant pour pouvoir partir. Hein, quand une maman commence à voir que ses enfants sont victimes de violences, souvent ça déclenche un départ, une prise de conscience... Et de dire, bon là, maintenant, c'est terminé. Tant que c'était moi, je restais pour les enfants. Mmh. En disant, ben, si je pars, je vais les priver d'un père, d'une famille. Mais finalement, quand le papa violent ou la maman violente touche aux enfants, l'autre conjoint se dit, maintenant, il faut partir.
Alors, il y a une chose que je voulais vous demander. C'est que quand il y a une violence comme ça, que les enfants se mettent au milieu, moi, j'ai entendu dire qu'on arrivait à séparer les enfants des parents. Est-ce vrai, ça ?
Alors, toute situation est singulière, donc ça, je ne peux pas me prononcer sur des situations. Le but de la protection de l'enfance,
oui.
C'est de protéger des enfants. Donc, si à un moment donné, dans un couple, on s'aperçoit que les deux oui. personnes du couple sont violentes et mettent en danger la vie de l'enfant, oui, on va enlever l'enfant du domicile. Nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est que les services de la protection de l'enfance, quand ils ont une maman en difficulté et victime de violence avec des enfants... ils vont proposer à la maman de partir avec les enfants. Les enfants ne sont pas placés systématiquement. Hein, ils vont être placés quand la sécurité au sein du foyer n'est plus assurée. Donc non, ce n'est pas systématique, et ça c'est important de le dire, parce qu'on a beaucoup de dames qui ne veulent pas dénoncer, parce qu'elles ont peur qu'on leur prenne leurs enfants.
Et oui, ça se comprend. Hein.
Tout à fait, mais pas du tout. Hein, pas du tout, au contraire, on travaille vers un départ avec les enfants.
Une femme, elle est toujours maman poule avec ses enfants,
bien
ça
sûr.
C'est normal.
Bien
elle
sûr.
Ira jusqu'au bout pour protéger ses enfants. Hein.
Oui, bien sûr. Mmh. Mais parfois, malheureusement, la violence touche aussi et la femme et les enfants, et malheureusement jusqu'au décès, hein, puisqu'on a aussi des enfants qui meurent chaque année dans le cadre de la violence conjugale.
Josie, tu voulais poser une question.
Oui, est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, du cas le plus difficile que vous ayez eu à gérer, justement ?
Écoutez, je vais vous dire...
Un des cas, parce que je suppose que vous en avez...
Ça fait 12 ans que j'accompagne des femmes victimes de violences. J'ai l'impression de jamais aller au bout de l'horreur. C'est impressionnant. Et pourtant, j'ai un passé... je ne suis pas toute jeune. J'ai accompagné tout type de public, y compris des publics de rue, des publics de prison. Et le pire de l'horreur, je l'entends au sein du couple. Donc, vous dire que pour l'instant, la pire, non, je ne crois pas. Parce qu'en fait, chaque situation est grave. Oui, on a des femmes qui sont décédées. Alors, si le décès est la pire des situations, malheureusement, oui. Des femmes qui sont décédées sous les coups des conjoints, on en a connu quelques-uns, oui. Mais avec des enfants, j'ai une situation en tête où là, le papa a enlevé la petite fille, s'est tué avec sa petite fille et a laissé la maman. Ça aussi, c'est terrible. Parce que la mère vit avec la culpabilité du décès de sa fille, parce qu'elle elle est partie suite à des violences. Chaque situation, finalement, est grave.
Il doit y avoir des années de psychothérapie qui suivent, hein, je suppose.
Pour les victimes ou pour nous ?
Non, c'est pour les deux. pour les deux, oui. Parce que je suppose que même pour vous, ça doit être dur à surmonter tout ça quand même, hein, chaque fois.
Oui, alors nous, on n'est pas à plaindre par rapport à ce que vivent les femmes qu'on accompagne.
Mais vous,
hein.
Vous ne pouvez pas, après avoir vécu une journée, à faire un sauvetage, je veux dire,
on
dans une
pas,
famille.
Nous,
hein. Vous n'allez pas rentrer chez vous tranquillement, mettre vos chaussons, boire un café tranquille. Non, ça reste dans la mémoire toute la journée, voire même plus. Hein.
Alors on évite quand même que oui, ça reste dans la mémoire. Oui. Hein, dans nos dans nos métiers, en général, c'est nécessaire.
Oui.
Voilà, c'est nécessaire de pouvoir couper et fermer la porte.
Oui.
Voilà. Alors, on la ferme symboliquement, mais on la ferme en vrai, parce que sinon, à la maison, ça devient invivable. Et puis, vous parliez tout à l'heure de situations dramatiques. On peut pas parler de ça à la maison. C'est pas possible. Tout à l'heure, vous disiez, mesdames, qu'on vous croyait pas. Nous, les femmes, elles nous racontent des histoires qui sont incroyables au sens qu'on ne les croit pas. Et c'est tellement difficile que même nous, dans nos vies privées, on ne raconte pas les histoires.
C'est difficile quand même d'inventer une violence conjugale. Parce que moi, je sais que j'ai été témoin à l'hôtel de police à Carpentras, justement d'une personne qui était violentée par son... C'était pas son mari, c'était son frère.
Oui.
On croyait le frère, mais pas elle. Et je lui ai dit, déshabille-toi et fais voir les coups. Et là, ils ont cru, mais il a fallu qu'elle se déshabille. Je trouve ça aberrant.
Il a fallu qu'elle montre, encore une fois, ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. Et une chose importante, c'est que les violences conjugales touchent toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges. Donc imaginez-vous, quand vous êtes la conjointe de quelqu'un... avec une vie sociale importante, quelqu'un de haut placé, un notable, etc., etc. Quand vous allez au commissariat de police pour dire « mon mari me frappe ou me maltraite », les gens en face de vous connaissent l'auteur, mais sous un autre visage, évidemment. Et parfois, on ne les croit pas.
Oui, je crois que Manon voulait poser une question à Isabelle.
Oui, je voulais savoir si vous remarquez que c'est de pire en pire. Est-ce qu'il y a une évolution flagrante ? Est-ce que les femmes parlent plus, du coup, il y a plus de cas ? Est-ce qu'il y a une évolution ?
Alors, j'allais dire, il y a les deux. Il y a les deux parce qu'effectivement, la prise en compte de la violence au sein du couple, elle est récente. Et les lois qui régissent la violence conjugale comme un délit, ça n'a même pas 25 ans, quoi. Donc, c'est récent. Mais par contre, le fait de pouvoir parler et le fait d'avoir des lieux, des associations, des numéros d'écoute pour pouvoir parler, a fait en sorte que les femmes se libèrent et puissent aller déposer plainte. Comme c'est un délit, elles ont pu aller déposer plainte. Donc on a plus, au niveau des chiffres, on a plus de déclarations de femmes victimes de violences. Mais il y a aussi un phénomène de société qui fait que la violence devient aussi un mode de communication qui est beaucoup plus banalisé. Donc on a, sur certaines générations, de la violence verbale et psychologique qui est beaucoup plus fréquente, qui touche beaucoup. On a aussi, avec la crise, des personnes, des messieurs qui se sont retrouvés en situation économique où ils n'étaient plus le dominant à la maison. Et vous savez qu'on a quand même une injonction sociétale et vous en êtes les preuves. Le monsieur doit quand même avoir une certaine domination dans la maison et dans la société. Et pour les hommes qui se retrouvent dans des situations où c'est madame qui travaille, qui ramène l'argent à la maison, les copains, ils sont pas toujours très sympas avec eux. On dit « Ah, c'est ta femme qui porte la culotte ».
Oui, on les diminue.
On les diminue. Et pour des personnes qui sont déjà un peu fragiles, on va dire, au niveau narcissique, ça peut déclencher des accès de violence, même s'ils n'ont jamais été violents auparavant. Voilà. Donc, je pense qu'il y a les deux. Il y a la possibilité de parler plus. Aujourd'hui et cette année particulièrement, on en parle beaucoup. Donc, nous, on a, dès qu'il y a des campagnes de communication, on a des femmes qui viennent, beaucoup plus. Elle s'autorise à parler, ce qu'elle ne faisait pas avant.
Oui, mais c'est vrai que maintenant, on en parle plus facilement quand même qu'il y a quelques années en arrière.
On en parle plus facilement.
Mounia voudrait dire quelque chose.
Oui, Isabelle, d'après ce que vous voyez...
C'est dur parce qu'elle a connu ce genre de choses. C'est pour ça que c'est dur à sortir.
Je sais.
C'est pas grave, Mounia. On sait ce que tu as vu, que c'est difficile.
Et ce qui est intéressant, c'est que
Même des années plus tard,
des années plus tard, à partir du moment où le travail de reconstruction est en cours, c'est quelque chose qui reste, qui fait partie de l'histoire de la femme qui a vécu des violences. Et même si elle refait sa vie, on a des personnes qui sont toujours dans la peur sont toujours dans le trauma, puisque pour certaines on relève du trauma, donc c'est difficile, même des années après, même en confiance, même avec des amis, même avec des gens qu'on connaît, c'est compliqué d'en parler.
Oui, ce que vous dites là, Isabelle, c'est bien, mais une femme qui a subi justement certaines violences se reconstruit à l'extérieur, mais à l'intérieur, je crois pas que c'est possible.
Alors si elle suit, alors aujourd'hui on travaille beaucoup aussi sur le trauma, sur les violences. On a permis, grâce à certains psychologues, de mettre en avant que des victimes de violences relèvent de l'état de stress post-traumatique au même titre que des victimes d'agressions par un tiers, que des victimes d'accidents d'avion, que des soldats. Elles ont exactement les mêmes symptômes. C'est assez sidérant, mais elles ont les mêmes symptômes parce que ces femmes-là, elles voient la mort pratiquement tous les jours.
Ah oui, ça, c'est
donc
vrai.
Elles relèvent du traumatisme. Donc à partir du moment où on a su identifier ça et qu'elles sont accompagnées avec un travail en psy, hein, c'est comme ça qu'on se reconstruit, nous on a des femmes qui oui, des années après, revivent autre chose et revivent très bien. Après, elles n'oublient pas, ça fait partie de l'histoire, mais ça a déclenché en elles des petits voyants comme ça rouges qui s'allument quand des gens s'approchent et qui ne sont peut-être pas bienveillants. On en a beaucoup qui nous disent « Oh là, maintenant je me méfie et je suis dans l'observation ». Et ces femmes-là, elles se reconstruisent. Elles se reconstruisent.
Là, je vois sur la brochure, vous avez des groupes de parole. Alors, dans ces groupes de parole, qu'est-ce que vous faites? Qui est intéressé? Et qu'est-ce que ces femmes viennent chercher? Peut-être les hommes aussi viennent chercher dans ces groupes de parole.
Alors, les groupes de parole, ils sont essentiellement sont des femmes victimes qu'on y trouve. Et c'est ce qu'expliquait Manon tout à l'heure. Hein, c'est, nous aussi, on rigole beaucoup, curieusement, mais on pleure et on rigole en même temps. Hein. Donc, ils sont assurés par une psychologue. Et on va aborder soit un thème qui va être choisi par les femmes, la confiance en soi, la peur, l'estime de soi, la parentalité, qu'est-ce que être traumatisé. Et puis parfois c'est notre psychologue qui va à travers la présentation d'une victime raconter une histoire. Sur ces groupes de parole, on a aussi des femmes qui viennent témoigner qu'elles s'en sont sorties. Donc
ça,
en fait,
bien.
Voilà, elles viennent expliquer aux autres que oui, elles sont au début du processus, mais que finalement on s'en sort. Hein. Hein, puisqu'elles sont là et qu'elles viennent témoigner. Donc ces groupes de parole, bah, chez nous, il y en a tous les... Alors sur Avignon, il y en a un par mois, et sur Carpentras, il y en a un par mois, et ils sont pleins.
Vous vous situez où à Carpentras et où on peut vous joindre justement?
Alors, on se situe au 259 bis avenue Pierre-Sémard, et vous pouvez nous joindre sur le standard, vous avez le numéro, je ne le connais pas par cœur.
Oui, le 04 90 60. 36 84, si la personne ne peut pas se déplacer.
Exactement. Et sinon, elle peut se déplacer tous les jours de 10h à 16h, avec ou sans rendez-vous. Il y a un numéro important aussi qu'il faut que les personnes retiennent, c'est le 3919. Le 3919, c'est un numéro qui est mis en place par la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Et nous sommes le référent territorial du 3919. Ce sont des psychologues qui sont à l'écoute. Ce n'est pas un numéro d'urgence, hein. C'est un numéro d'écoute, mais qui est réservé aux violences faites aux femmes.
Ben Isabelle, merci. On va peut-être se retrouver un peu plus tard.
Oui, merci.
Merci Isabelle.
Tout
merci.
À fait. On va d'ailleurs faire une petite pause. Et puis, effectivement, on va continuer cette émission Parole de femmes avec la dernière partie de l'émission. À tout de suite.
And takes a
Yesterday, but too many storms have come and finally been addressed. I'm not one God-given raise it because my life is 10 shades of gray. I pray all 10 fade away, sell the raisin for the 7 days. And like his promise is true, only my faith can undo the many chances I believe would bring my life to an end. Clear blue and unconditional skies have dried the tears from my eyes. No more lonely cries. My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the pouring rain. Who's to blame for to gain into your own vein? What a shame you're shooting aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay in time for falling prey to crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless, aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Yeah.
Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes. They
écoutez Paroles de Femmes, le rendez-vous pratique pour aider les femmes à mieux vivre leur quotidien.
Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Paroles de Femmes avec à nos côtés Josy, René, Mounia et nos invités. Donc nous avons l'association, je vais le rappeler, Manoleta et l'association Réseau. Josy, peut-être je vais te laisser la parole.
Oui, je pense que peut-être René voulait redemander à Isabelle quand se faisaient ces groupes de parole ou les réunions.
Oui, justement Isabelle, vous dites que c'est un jeudi par mois. Le prochain se ferait quand et à quelle heure? Est-ce que vous auriez les dates et l'heure? Non.
Alors, je n'ai pas la date en tête, c'est le jeudi après-midi, mais en passant par le numéro que vous avez donné tout à l'heure, on vous indique à quelle date sont fixés ces groupes de parole. Alors, c'est vrai qu'en général, on a un premier entretien avec donc Maëva, qui anime ces groupes, oui, et qui vous propose ensuite d'aller sur le groupe de parole. Parce que c'est important de savoir ce qu'on y trouve, qui participent à ces groupes. Et ce qui est important de comprendre, c'est que parfois, on y va pour écouter. Hein, parce que souvent ça fait peur d'aller dans un groupe de parole. Bah, il faut se dire qu'on y va d'abord pour écouter, pour savoir exactement ce qui s'y passe, et ensuite en général la parole vient assez fréquemment.
Et quels sont les référents qui justement font fonctionner ce groupe de parole?
Alors c'est Maëva Tonelli qui est psychologue chez nous et qui, oui, est accompagnatrice psychosociale sur l'accueil de jour et qui est sur Carpentras et Avignon.
Merci. Josy, tu veux dire quelque chose?
Oui, je vais d'abord passer la parole à Mounia, qui va nous dire quelque chose là.
Oui, voilà, je voulais dire que le nombre de décès dus au tabac a doublé chez les femmes en 15 ans. C'est très important, il faut en parler. Nous allons voir bientôt la mortalité par cancer du poumon passer devant celle du cancer du sein.
Et oui, et ça, c'est le directeur général de Santé publique de France qui nous le dit. La mortalité par cancer du poumon a notamment augmenté de 71%, c'est beaucoup, hein, entre 2000 et 2014, alors qu'elle a diminué de 15% chez les hommes sur la même période. La hausse est particulièrement marquée chez les femmes de 55 à 64 ans, remarquent les organisateurs du mois sans tabac lancé ce mardi 30 octobre. Les femmes en seront donc les premières cibles. Les femmes ont vraiment commencé à fumer dans les années 70. Et c'est cette première génération qui est aujourd'hui touchée de plein fouet par des maladies qu'on croyait quasiment exclusivement masculines. Cancer du poumon, infarctus du myocarde, bronchopneumopathie chronique obstructive. Selon l'Agence Santé publique France, la consommation de tabac a reculé en France en 2017, sauf chez les femmes de 45 à 54 ans, qui comptent 30,8% de fumeuses en 2017. Contre 21,5% en 2000, et toutes générations confondues. Alors même enceintes, trop de femmes continuent à fumer. 16% d'entre elles fument en fin de grossesse, soit un taux des plus élevés d'Europe, qui se situe entre 5 et 10% en Angleterre et les pays du Nord. On sait pourtant que le tabagisme maternel est un facteur de risque majeur pour la mère comme pour les bébés et peut entraîner des naissances prématurées, voire la mortalité périnatale. C'est un crash d'avion par jour. Sur les 30% de femmes qui fumaient avant la grossesse en 2016, la moitié environ s'est arrêtée avant le troisième trimestre, 45,8%. Et 45% avaient réduit leur consommation de tabac, mais sans arrêter complètement. Les femmes enceintes qui ont l'idée fausse qu'aucun traitement ne peut les aider, alors que des substituts nicotiniques peuvent leur être prescrits. La grossesse est pour la moitié des fumeuses l'occasion de s'arrêter, mais 82% de celles-ci, hélas, reprennent après l'accouchement. Une occasion manquée qui plaide en la faveur d'un soutien particulier des femmes, même après la grossesse, dans leur intérêt comme dans celui du bébé, qui sera moins exposé au tabac. Que pensez-vous de tout ça, mesdames ? Êtes-vous fumeuse, Manon ?
Alors, j'étais pas au courant. Moi, personnellement, je me suis mise à la cigarette électronique, et je le conseille, parce que je pense que ça peut pas être pire.
Oui.
voilà. Après, je pense que tout ça, c'est bien, parce que c'est... On a souvent les chiffres des cancers en général. Là, c'est bien, je trouve, de séparer hommes-femmes et de voir que les femmes, il y a encore une fois un retard de prise en charge d'informations. Je pense que vous n'allez pas me contredire.
Non, oui, non, mais c'est tout à fait ça, oui. Oui, oui.
Donc,
les chiffres sont là. Hein.
Après, voilà, on entre, j'ai envie de dire, dans une ère nouvelle où on commence à dire aux femmes, bon, maintenant, parlez. Sur n'importe quel domaine, maintenant il faut parler, ça suffit de se taire.
Exactement. Et justement, les groupes de parole, ça sert aussi à ça.
Exactement.
Pour toute
on
maladie,
parle, on parle, on papote.
On en parle parce qu'on arrive là, on pense être là toute seule dans cette situation. Et puis non, finalement, on entend que les autres en parlent, mais tiens, il n'y a pas que moi.
Mais tu sais, Josie, je vais te dire, il faut aussi responsabiliser les futures mamans que le tabac, c'est nocif pour l'embryon, pour le bébé qui prend vie dans le ventre de la maman, et que la plupart des déformations enfantines viennent justement du tabac en premier, parce que ça agit sur le système nerveux des embryons. Ça, il faut bien le connaître. Tu es enceinte, tu arrêtes de fumer. Voilà, c'est tout. Moi, c'est un petit peu ma théorie.
Et on dit également que dans la prochaine campagne qui se fera pour les femmes enceintes, on parlera des méfaits de l'alcool, mais aussi du tabac. Aurélie ?
Alors moi je sais que c'est pas bien, mais c'est vrai que pendant mes deux grossesses je n'ai pas pu m'arrêter de fumer, et mon gynécologue m'avait conseillé qu'il fallait mieux fumer 3-4 cigarettes par jour plutôt qu'être énervée et le stress qu'on pouvait procurer à notre fœtus, quoi, notre enfant. Donc c'est vrai que j'ai fumé, voilà, 3-4 cigarettes par jour pendant ma grossesse. Et que là, j'ai arrêté de fumer, comme quoi.
Ah oui. Donc... Quel a été le déclic, alors, justement ?
Alors, c'est vrai que, compte tenu de ma maladie et de tout ce que j'ai, parce qu'avant l'endométriose, ben, j'ai eu d'autres problèmes de santé aussi. Donc, je me suis dit, en fait, que si je n'arrêtais pas de fumer maintenant, le cancer du poumon, il serait pour moi, quoi, tout simplement.
Oui, c'est sûr. Voilà. On ne croit plus en rien après, hein, avec tout ça.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que là, j'ai enduré 2 ans de souffrance par rapport à l'endométriose. Et avant, on m'a enlevé la vésicule biliaire, donc je faisais des pancréatites. Et ça a duré en fait 1 an et demi, le temps que les médecins diagnostiquent en fait et qu'ils veulent bien m'opérer. J'ai dû crier, d'accord, hurler pour qu'on m'opère, parce que j'ai une septicémie quand même.
Aurélie, est-ce que vous fumez ou est-ce que vous vapotez ?
Oui, alors voilà, j'ai la cigarette électronique, mais bon, ça fait quand même 2 mois et demi que j'ai arrêté. Et je pense que c'est déjà mieux que la cigarette normale. Donc, après, c'est une aide pour arrêter de fumer, bien sûr.
Et puis ça fait... Je ne suis pas au courant des prix, moi. Est-ce que c'est moins cher que les cigarettes ?
Bah alors, la cigarette électronique en elle-même, l'investissement, c'est à peu près 120 € la cigarette. Et ensuite, la nicotine, c'est 7 € le flacon et il vous dure à peu près une semaine.
Donc, Isabelle, oui ?
Moi, je ne fume plus. J'ai fumé 10 années et j'ai arrêté de fumer maintenant, il y a 25 ans, après la naissance de mon deuxième enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce que vous disiez tout à l'heure, que les femmes ont commencé à fumer dans les années 70. Et ça correspond vraiment à une émancipation. Oui, c'est-à-dire que déjà...
En 68, hein, ça y est.
C'est ça, exactement. Ça veut dire que même quelque chose de nocif comme la cigarette ou l'alcool, finalement, les femmes s'en sont emparées pour pouvoir avoir une image d'émancipation et d'égalité
hommes-femmes. Voilà, tout à fait. Voilà. Exactement, oui. Je reviens vers vous, Isabelle, parce que je suis en train de lire dans la brochure, vous faites des ateliers de communication parents-enfants et de soutien à la parentalité. Pouvez-vous nous en dire plus sur le contenu de ces ateliers ?
Oui, tout à fait. Alors, ils sont en train d'évoluer un petit peu parce que la demande des femmes évolue. Voilà, je vous disais tout à l'heure que nous, on s'adapte vraiment à la demande des personnes qu'on reçoit. En fait, une femme victime de violence, elle est souvent atteinte dans son rôle de parent. Hein, quand on veut diminuer une femme, on dit que c'est une mauvaise mère. Et quand des enfants grandissent dans la violence, eh ben, ils ont un comportement violent. Donc, ça va être nocif dans la relation mère-enfant. Donc, nous, on travaille sur rétablir le lien mère-enfant. Dans ce qui apporte de sécure à l'enfant, mais on va travailler aussi sur de la communication non violente entre l'enfant et la mère. On va essayer finalement de faire comprendre à l'enfant, mais en présence de la maman, qu'il y a un autre langage, une autre manière de communiquer que par la violence. Donc on peut le faire à travers des ateliers, on peut le faire à travers des jeux, on va le faire là, cette année à travers des contes. À travers aussi dans le rétablir le lien de parentalité, c'est aussi la non-violence physique. Donc on va apprendre à des enfants à masser leur maman et à des mamans à masser les enfants dans des moments de tension. C'est rétablir ce toucher qui, dans un climat de violence familiale ou conjugale, est en général quelque chose de nocif. Et ben nous, on va essayer de le transformer avec des partenaires bénévoles du soin en quelque chose de positif.
Manon voulait dire quelque chose.
Oui, dans l'association, on a beaucoup d'adhérentes qui sont confrontées à des violences médicales. Mmh. Est-ce que c'est possible de se retourner vers vous, d'en parler auprès de vous ?
Alors, nous, on est. C'est vrai que notre expertise à nous, c'est la violence conjugale, mais comme je vous disais, on est référent du 39-19. Toutes les femmes qui sont victimes de formes de violence, quelles qu'elles soient, on va les écouter sans aucun problème. Après, on ira chercher des partenaires compétents en matière juridique, de manière à orienter les victimes si elles souhaitent faire un parcours face à la justice, ou alors continuer, ou alors les orienter vers un psychologue, hein, s'il y a besoin d'un soin. Enfin, d'un travail de soins un peu plus approfondi. Alors oui, sur l'écoute, il n'y a aucun problème.
D'accord, merci.
Ouais, je voulais demander, violence médicale, ça consiste en quoi ?
Oui, bah en fait, on est confronté au milieu médical plus que n'importe qui. Mm-hmm. Et il y a des violences médicales, alors il y a des examens qui ne sont pas faits comme ils devraient être, avec plus de douceur. Il y a aussi la violence verbale. Voilà, il y a par exemple... c'est pas trop dilaté, allez mademoiselle, faut mouiller un peu plus. Ouais. Voilà, c'est terrible.
Alors, il faut savoir que la secrétaire d'État aux droits des femmes et à l'égalité professionnelle, Marlène Schiappa, s'intéresse beaucoup à tout ce qui est violence médicale, parce que effectivement, c'est considérer la femme finalement comme un objet qui n'a pas le droit de souffrir et d'exprimer sa souffrance. Pendant très longtemps, les enfants n'ont pas eu le droit de souffrir non plus. Hein. Ouais. Donc les femmes et les enfants, face à la souffrance, n'ont pas le même traitement qu'un homme face à la souffrance. Et une femme qui accouche, bon, on sait qu'elle est dans la souffrance pendant un certain temps. Et effectivement, il y a donc la non-prise en compte de la douleur au moment de l'accouchement. Il y a les épisiotomies aussi qui ne sont pas annoncées et qui sont une violence physique importante. Puisque derrière, il y a quand même des conséquences et puis c'est douloureux, et qui sont faites systématiquement pour le confort, on va dire, peut-être du médecin, ou parce qu'il y a beaucoup de femmes qui accouchent et que ça va beaucoup plus vite. Bref, quelles que soient les raisons, en tout cas, c'est un des combats de la secrétaire d'État, et je pense qu'effectivement, c'est vraiment une violence qui doit de plus en plus être parlée.
Oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter aux femmes qui subissent ça d'en parler.
Bien sûr.
Parce que si personne n'en parle...
Il y a une autorité médicale qui fait qu'on n'ose pas. Parfois. Et voilà, moi, ce que je conseille vraiment aux filles, c'est d'en parler, de dire quand les médecins sont violents, mais aussi de dire ceux qui sont super bien et pour nous aider à les réorienter, celles qui sont
violents, que ce soit dans les gestes ou verbalement, d'ailleurs.
Exactement. Ouais.
Alors, par contre, Isabelle, je vois là, juste en bas, un atelier bien-être. Que fait-on dans ces ateliers bien-être et qui sont concernés, justement ?
Alors,
toutes ces femmes.
Les personnes qu'on accompagne, voilà. Les personnes qui ont un suivi, on va dire, sur l'association et notamment sur ce service de violence conjugale, en fait, c'est dans ce travail de reconstruction et d'estime de soi. On va travailler sur s'autoriser déjà à prendre du temps pour soi, ce qui pour les femmes victimes de violences qui sont sous contrôle, ou c'est très compliqué pour elles de s'autoriser à s'occuper d'elles-mêmes parce qu'elles ont peur, parce qu'elles vont privilégier d'autres choses, elles vont être en action, mais aussi parce qu'à travers l'atelier bien-être, donc on fait de la réflexologie. Donc la réflexologie, c'est des pressions, hein, c'est comme de l'acupression au niveau des pieds. Et donc nous, ce qui est prodigué par des élèves de l'école de réflexologie plantaire de Carpentras ou des réflexologues qui sont bénévoles, c'est de la réflexologie bien-être. Mais imaginez-vous que pour des femmes qui ont été victimes de violences graves, physiques, se faire toucher les pieds, qui est quand même un organe sensuel, hein, au niveau de notre corps, c'est très compliqué. Donc on apprend à réaccepter le toucher non violent à travers donc de la réflexologie. On propose aussi de la sophrologie, il peut y avoir des massages, des ateliers esthétiques, voilà, tout ce qui va permettre de reconstruire la victime dans l'estime de soi, mais dans l'image qu'elle a des autres. Et je peux vous dire que nous, quand on les voit arriver quelques mois après, maquillées, habillées, prenant soin d'elles, eh ben voilà, on a juste la récompense.
Oui, c'est votre victoire d'un côté
voilà,
aussi.
Nous, c'est
exactement.
Ça.
Et elles ont fait un grand pas.
Exactement. Et nous, notre plus grande victoire, c'est quand elles viennent nous dire, ben voilà, au revoir, on n'a plus besoin de vous.
Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de recentrer un peu le sujet sur les associations que vous avez reçues aujourd'hui, comment les contacter, voilà, parce qu'on arrive déjà au terme de l'émission. Il nous reste 2 minutes, Josie et René. Voilà.
Oui, alors bah, écoute, d'abord, merci encore Manon et Aurélie d'être
merci
venues d'Avignon quand même. Hein. Vous n'avez pas eu peur de la pluie. Et puis, donc, nous avons donné déjà tout à l'heure les coordonnées, mais donc, le site internet, c'est https://, là, je ne sais pas comment vous les appelez, Manoleta 84. Vous avez aussi le téléphone 06 50 02 47 90 et le mail manoleta84@gmail.com.
Et peut-être pour René, pour l'association Réseau.
Oui, alors donc, ben, je remercie Isabelle Lemaire qui est venue représenter Réseau. Et donc, je vais donner 2 petites informations donc, pour toutes ces femmes qui sont en souffrance. Le 39-19 Violence Femmes Info, c'est du lundi au vendredi de 9h à 22h et les samedis et dimanches de 9h à 18h. L'appel est gratuit d'un téléphone fixe. Vous pouvez joindre Réseau au 04 90 60 36 84 qui est avenue Pierre Sémard au numéro
259 bis.
Voilà, merci Isabelle.
Merci beaucoup.
Peut-être avant de se quitter, le dernier mot peut-être sur l'une de vous trois, ou les trois tout simplement.
Déjà merci, et puis je pense que cette radio montre bien qu'on a la parole et qu'on l'utilise. Et voilà, je pense qu'avec l'association Réseau, on peut être contente de ça.
Oui, oui, tout à fait. Et quand on rencontre d'autres associations, de toute façon, on fait toujours du lien. Parce que bah, une femme qui est victime de violence peut aussi avoir de l'endométriose, et j'en ai en tête. Donc voilà, donc on va pouvoir même travailler en lien. C'est super. Merci à vous.
Merci
beaucoup. Donc on recevait aujourd'hui l'association Manoleta, donc dans Parole de Femmes, représentée par Manon et Aurélie, et puis l'association Réseau avec Isabelle. Merci à vous toutes, et puis prochaine émission Parole de Femmes, ce sera dans un mois. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de votre émission en podcast, en réécoute, vous pouvez la partager, n'hésitez pas. Et donc moi je vous dis à bientôt, et bientôt mesdames.
À bientôt Florian.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Vous venez d'écouter Paroles de Femmes, le rendez-vous pratique pour aider les femmes à mieux vivre leur quotidien. Cette émission a été réalisée en partenariat avec la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Vénessin et la ville de Carpentras.